La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Victor Hugo avait écrit « Rien n'est solitaire, tout est solidaire » et c'est une phrase qui résume parfaitement ce qui se joue en permanence dans les interactions du monde vivant. Des virus aux bactéries en passant par les sociétés humaines à toutes les échelles et chez toutes les espèces, les organismes font preuve de coopération et d'entraide. Et en matière d'évolution, la clé du succès se trouverait chez les groupes altruistes. Pablo Servigne est agronome et docteur en biologie. Il publiait l'année dernière avec Gauthier Chapelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle » aux éditions Les Liens qui Libèrent et il est mon invité dans un instant pour nous emmener donc à la découverte des différentes stratégies solidaires. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et une étape importante franchie au LHC autour du boson de Higgs, c'est aujourd'hui à la une de la science.
Oui Mathieu, une détection attendue depuis 6 ans a été annoncée mardi à Genève, celle de la désintégration du boson en deux quarks B. Pas de panique, on vous explique dans un instant.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission. Et Thierry Dupin signe la programmation musicale.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, l'entraide, l'autre loi de la jungle, ce sera le sujet dans un instant avec mon invité que je salue, Pablo Servigne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Cette idée selon laquelle le monde vivant n'est synonyme que de lutte violente et de compétition, c'est complètement à revoir aujourd'hui.
C'est à revoir, parce qu'on a vu que la moitié du tableau et aller voir l'autre moitié, c'est absolument incroyable. Tout le spectre du vivant est là pour nous raconter une autre histoire.
Et toutes ces études scientifiques qui sont publiées régulièrement, ça fait vraiment l'objet d'ailleurs de l'intérêt des chercheurs aujourd'hui.
Oui, il y a un nombre d'études absolument incroyable et du coup, nous, ce qu'on a voulu avec Gauthier Chapelle, c'est aller voir, faire le tour de toute cette question et de le traduire pour le grand public.
C'est
en fait.
Ça. Donc sujet transdisciplinaire.
Transdisciplinaire qu'on devrait étudier à l'école. C'est fou qu'on doive écrire des bouquins comme ça. On n'aurait jamais dû devoir l'écrire. Quoi.
Bon, ben on va en profiter quand même ensemble dans quelques minutes pour faire justement le tour avec beaucoup d'exemples dans le monde vivant de cette coopération, de cet altruisme, de cette entraide avec les messages auxquels vous répondrez sur le site de La Tête au Carré. À tout à l'heure. Axel, à la une de la science, aujourd'hui on entre dans l'intimité des particules élémentaires avec une détection importante annoncée à Genève et c'était mardi.
Oui Mathieu, c'est celle de la désintégration d'un boson de Higgs en deux quarks B. Ça fait 6 ans que les physiciens travaillaient dessus.
En quoi vous disiez? En deux quarks?
En quark. C'est une des particules élémentaires du modèle standard et c'est la dernière saveur de quark découverte en 1977.
C'est beau ça la saveur.
Hein. Alors vous savez quoi Mathieu, le mieux ce serait qu'on discute avec notre invité de tout ça. Bonjour Marc Besançon.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes physicien à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers au CEA de Paris, à Saclay. Et vous travaillez sur l'expérience CMS. C'est un des détecteurs qui a permis cette détection, du coup. Et pour commencer, peut-être avant d'annoncer la découverte d'hier, un petit rappel s'impose, je pense, sur ce qu'est le boson de Higgs et ce qu'est le quark B.
Donc le boson de Higgs, c'est donc une particule qui a été découverte en 2012. Et c'est une particule importante en ce sens qu'elle permet de donner la masse, l'essentiel des particules du modèle standard, et en particulier les quarks et les leptons chargés, ainsi que les bosons de l'interaction faible.
Alors, ça veut dire quoi l'interaction faible et les bosons chargés? Je suis désolé, à chaque fois je vous reprends.
Non, il n'y a pas de problème. Donc l'interaction faible, c'est l'interaction qui est responsable de la radioactivité bêta, qui est primordial dans toutes sortes de réactions, en particulier dans des réactions qui se passent au sein du Soleil.
Soleil, ensuite, un mot qu'on a compris au moins.
Et ensuite, les leptons chargés, c'est tous les leptons qui sont de la famille des électrons, si vous voulez. Un électron, c'est un lepton. Et ils viennent en trois familles, donc un électron, un muon, un lepton tau. Et donc, c'est des catégories de particules qui sont rangées en familles. Donc, on a des familles de leptons et des familles de quarks. Donc, quand on évoque le quark B appartient à la troisième famille de quarks. Il y a deux membres dans cette famille. Il y a le quark B. Alors, on l'appelle parfois bottom de l'anglais ou beau, beauty. Et son autre partenaire dans cette famille, c'est le quark top. En descendant dans la deuxième famille, on a dans les quarks de la deuxième famille, les quarks dits étranges et charmés. Et dans la première famille, on a les quarks qu'on appelait U et D, pour up and down, dans l'anglais toujours. Et ce sont des quarks qu'on retrouve dans le proton et le neutron. Alors, des objets qui nous sont familiers puisqu'ils constituent les noyaux des éléments qui nous environnent.
Si j'ai un peu compris, Marc Besançon, il y a plusieurs moyens de décomposer ce boson de Higgs et ces quarks B, ces deux quarks B sont une des manières de le faire.
Tout à fait. Alors, le boson de Higgs, on a une certaine idée de la manière dont il se comporte. Donc, il est dans la gamme de masse qu'on a mesurée, c'est-à-dire 125, donc la masse actuelle 125 GeV, on sait qu'il a plusieurs canaux de désintégration possibles, dont le canal de désintégration en deux quarks B, qui est le canal en fait dominant, puisqu'il représente à peu près 60% des cas où le boson de Higgs peut se désintégrer. Donc c'est une part vraiment très très importante et qui manquait à la détection jusqu'à ce jour.
Oui, justement, pourquoi vous observez toutes ces désintégrations et pourquoi celle annoncée hier était importante alors ?
Alors, d'une part, donc, c'est la désintégration dominante. Ce n'est pas la désintégration donc, évidemment, qui a servi à la découverte en 2012. En 2012, les désintégrations qui ont servi à la découverte du boson de Higgs ont été faites à l'aide de deux photons ou de deux bosons Z. La raison étant que ces canaux de désintégration permettaient des résolutions en masse extrêmement bonnes et en plus permettaient d'avoir des rapports, ce qu'on appelle des rapports signal sur bruit excellents, c'est-à-dire pouvoir dégager le signal du bruit de fond. Alors dans le cas des quarks B, la résolution en masse est 10 fois moins bonne et en plus on est face à un bruit de fond énorme qu'il fallait combattre. Donc ça a pris beaucoup de temps pour pouvoir sortir le signal de cette désintégration de quark B du bruit de fond et beaucoup de données pour le faire.
Alors Marc Besançon, si on devait résumer par exemple pour un enfant en bas âge cette histoire de particules élémentaires et cette découverte donc annoncée avant-hier, qu'est-ce qu'il faudrait retenir finalement ? Là, s'il fallait vraiment, pardon hein, parce qu'évidemment vous êtes dans ce milieu avec vos termes très particuliers, mais pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et l'importance de la découverte.
J'utiliserai peut-être l'image du tableau de chasse. Il y a plusieurs manières qu'a le boson de Higgs de se désintégrer. On a à notre tableau de chasse un certain nombre de désintégrations, on est très content. Et là, on vient d'accrocher un trophée supplémentaire qui est en fait le trophée énorme qui manquait à la panoplie qu'on a jusqu'à présent. Et c'est important parce que ça complète un peu la connaissance qu'on a de cette particule et ça permet d'ouvrir la voie à des mesures de précision qui vont nous permettre de connaître encore mieux l'objet boson de Higgs.
Ah ben là, on vous a bien suivi.
Oui, et j'ai une question d'ailleurs en plus. Ce tableau de chasse, vous ne le complétez pas juste par plaisir. Il y a une raison derrière. Pourquoi est-ce que vous essayez de remplir ces cases en observant ces différentes désintégrations ?
Mais parce qu'on a un ensemble de prédictions, celles du modèle standard, qui permet de faire des prédictions sur les différents canaux de désintégration possibles. Et on voudrait avoir le schéma d'ensemble de ces désintégrations et pouvoir faire des mesures de précision sur ces canaux de désintégration et pouvoir voir s'il y a une déviation par rapport aux prédictions de ce modèle standard et donc voir s'il y a des phénomènes nouveaux, voire des particules nouvelles qui pourraient être responsables d'anomalies dans ces désintégrations.
C'est quoi le modèle standard dans la physique, tout simplement, Marc Besançon ?
Alors, on parle de modèle standard de la physique des particules. En fait, c'est un modèle qui permet de décrire les interactions électromagnétiques faibles et fortes, ainsi que les particules connues jusqu'à ce jour, donc les quarks et les leptons que j'évoquais tout à l'heure, ainsi que les bosons responsables donc de ces interactions électromagnétiques faibles et fortes. La cerise sur le gâteau, c'est que on a compris dans les années 70 à peu près que les interactions électromagnétiques et faibles se ressemblaient beaucoup, donc on a construit un modèle unifié connu sous le nom d'interactions électrofaibles avec l'inconvénient que cette construction prédisait que les photons, donc nos grains de lumière si vous voulez, et les bosons responsables de l'interaction faible devaient être de masse nulle. Or, on sait que on a vite compris que les interactions faibles étaient de courte portée et donc que leurs bosons intermédiaires étaient massifs. Et donc, il fallait introduire un mécanisme qui permettait de donner de la masse aux bosons W et Z responsables de cette interaction faible. D'où cette notion de brisure de symétrie, si on veut, un mécanisme de brisure de symétrie, qui est le mécanisme de Higgs, dont le boson de Higgs est une conséquence. Et on a, grâce à ce mécanisme, on a pu donner de la masse au boson W et Z, tout en gardant le photon de masse nulle, et avoir une description un peu plus complète de ce modèle standard. Donc avec les leptons, les quarks, les bosons et enfin le boson de Higgs.
Le but derrière tout ça, il faut le dire quand même, Marc Besançon, c'est de mettre en défaut cette théorie, c'est-à-dire de trouver la faille, de trouver l'erreur, parce que cette théorie ne permet pas d'expliquer pas mal de petites choses, par exemple la matière noire. C'est ça qu'il faut dire, non ?
Exactement, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir un ensemble cohérent et très solide de la description de notre monde microscopique actuel, mais on sait d'ores et déjà que c'est insuffisant, qu'il y a des choses qui manquent. Donc vous l'évoquez très bien, l'explication ou la description de la matière noire. On sait que dans l'univers, il y a une fraction du contenu énergétique de l'univers qui est constitué de matière noire, je dirais de l'ordre de 20 à 25%. Et donc ça, c'est pas du tout décrit par le modèle standard. Il y a encore pire, il y a la fameuse énergie noire qui non plus n'est pas décrite par le modèle standard. Il y a aussi le fait que dans le tableau que j'évoquais tout à l'heure, j'ai pas du tout parlé de l'interaction gravitationnelle. Donc le modèle standard, d'une certaine manière, ne discute pas trop avec l'interaction gravitationnelle. Et c'est un des espoirs, un des rêves ou un des graals qu'on aimerait décrocher, c'est de pouvoir avoir une description unifiée des trois interactions plus la gravitation. Donc on sait d'ores et déjà que le modèle standard n'est pas la réponse ultime, et il nous faut chercher des petites anomalies pour nous indiquer des pistes de recherche futures.
Et ça aussi, c'est la méthode scientifique. Merci beaucoup Marc Besançon, vous êtes physicien à l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers, et c'est au CEA à Paris-Saclay. Merci à vous, et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'eau la plus pure du monde. C'est une équipe de chercheurs autrichiens qui vient de présenter un protocole permettant d'obtenir une eau qui contient moins de 3 molécules organiques pour 1 milliard de molécules d'eau. C'est un record absolu atteint grâce à des cycles d'évaporation et de congélation proches du zéro absolu dans une atmosphère confinée. Avec ces niveaux de pureté, les propriétés intrinsèques de l'eau sont modifiées. Les scientifiques vont maintenant tester différentes expériences avec cette eau ultra pure. Nous rêvons sous anesthésie générale. Difficile de questionner un patient sur ce qu'il ressent au milieu ou après une opération sous anesthésie générale. C'est donc pour comprendre l'impact de ces endormissements forcés sur notre conscience que des chercheurs ont réveillé de force et pour l'expérience une trentaine de patients à différents stades d'une anesthésie. La plupart des volontaires ont déclaré avoir rêvé même si aucun sommeil paradoxal n'a été enregistré. Pour les chercheurs, c'est la preuve que la déconnexion avec le réel est complète pendant une opération. Nous ne sommes pas seulement non répondants mais bien parfaitement inconscients de ce qui se passe autour de nous. Et puis pour terminer, le bruit des villes et du trafic accélère le vieillissement des mandarins, ces petits passereaux très communs en Australie. Cette triste conclusion nous vient de chercheurs allemands qui ont mesuré la taille des chromosomes des jeunes oiseaux quittant le nid. Ils montrent que les télomères, le bout des chromosomes des oiseaux ayant été exposés tardivement au bruit, sont beaucoup plus courts que ceux qui ont subi la pollution sonore dès leur stade d'œuf. Une preuve directe que sans une adaptation au bruit depuis leur tendre jeunesse, l'impact sur la santé de l'animal est très important. Allez, dans un instant, notre dossier sur l'entraide animale. Advertising imaginative ways. Start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. Someone you like, you're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old grey whistle test lights. Take it easy for a little while.
Mr. Bridge Internal, I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okay, cookie with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight, cute new places keep on popping up around Clavius. It's all getting gentrified, the information action ratio is the place to go.
Arctic Monkeys, c'était 4 out of 5.
La tête au carré sur France Inter.
Pablo Servigne, vous êtes notre invité agronome, docteur en biologie, et vous vous présentez comme chercheur interdépendant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Inter-IN et terre avec un T majuscule.
TE2RE, ouais. C'était un petit jeu de mots, parce qu'en fait j'ai quitté le monde académique en 2008, j'ai fait de la recherche sur le comportement des fourmis. Ouais. Et puis, du coup, j'ai continué à faire des conférences et à faire de la vulgarisation. Et puis, en fait, à faire des recherches moi-même de mon côté. Je me suis dit chercheur indépendant. Et puis, avec Gauthier Chappelle, on a eu cette idée. Mais non, on est interdépendant. On n'est jamais tout seul monde, d'où ce petit jeu de mots.
C'est vrai. Et c'est absolument central, hein, au cœur de l'espèce humaine, d'ailleurs, en particulier. Hein, vous le rappelez dans le livre, un être humain seul ne peut pas vivre,
ça
au fond.
Ça n'existe
hein.
pas. Mais aucun être vivant n'est seul, finalement. Tous les êtres vivants au monde... Finalement, depuis la nuit des temps, sont impliqués dans des relations mutuellement bénéfiques.
Oui, c'est le cas des colonies de fourmis, par exemple, ou des insectes sociaux comme les guêpes, qui, en dehors justement de la communauté, se retrouvent incapables de survivre, finalement.
Par exemple, oui, alors là, la science, globalement, elle distingue trois types d'associations. Qu'il y a les mutualismes, c'est l'entraide entre espèces différentes. Mm-hmm. La coopération au sein d'une espèce, par exemple les lions qui coopèrent pour chasser, ou les manchots qui se protègent du froid, etc. Et au sein d'une famille, comme les fourmis qui forment une colonie, où il y a vraiment une proximité génétique, on parle plus d'altruisme, parce que c'est là qu'on observe le plus souvent de ce don au détriment de sa propre personne. C'est ce que la biologie, sans connotation morale, appelle l'altruisme.
Ouais. Et comment vous êtes intéressé à cette notion d'entraide dans vos recherches?
Alors, c'est bizarre parce que moi, depuis que je suis ado, j'étais passionné par les insectes. Et puis, à un moment, j'ai lu le livre de Bernard Werber, Les fourmis. Et j'ai dit à mes parents, je veux étudier les fourmis, être myrmécologue.
Ouais, c'est ça, myrmécologue. C'est bon de rappeler le nom, ça, c'est vrai. Ouais.
Et du coup, je suis devenu myrmécologue quelques années après. Et j'aime beaucoup... Ce qui me fascine, c'est pourquoi les êtres vivants font société, s'associent. Alors, c'était les fourmis parce que voilà, j'ai rencontré quelqu'un, un professeur qui m'a initié. Mais après, je suis passé aux termites, aux guêpes, voilà, et puis je me suis intéressé de manière bibliographique, évidemment, à tout le monde. Alors, il y a les bactéries, les champignons.
Exactement, et bien sûr.
J'ai plongé dans l'univers des humains. Je suis tombé sur toutes les disciplines qui avaient déjà travaillé depuis des centaines d'années, alors l'économie, les sciences politiques,
l'anthropologie, la sociologie, exactement. La philosophie.
Oulala, oui, donc tout ça. Ça m'a débordé, puis au fil des ans, on a réussi un petit peu à classer tout ça, à structurer tout ça. Et ces dernières années, il y a eu des découvertes majeures qui ont permis quand même de voir le tableau global. Et ce qu'on propose dans le livre, c'est vraiment une première approche, une architecture. On arrive à capter l'architecture de ce qu'on a appelé l'autre loi de la jungle. Alors, j'aime pas trop le mot loi parce que ça fait un petit peu, voilà. C'est plutôt un principe du vivant, de cet autre principe du vivant. Et c'est très cohérent, c'est très, c'est massif comme fait.
Absolument. Et c'est une synthèse transdisciplinaire, on lisait tout à l'heure, de cette thématique de l'entraide, qui est vraiment un mouvement de fond en ce moment. On sent qu'il se passe quelque chose dans la biologie, mais pas seulement, parce que c'est l'éthologie aussi qui a montré énormément, et puis des sciences sociales comme l'anthropologie. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce courant très très fort avec des chercheurs qui partout nous disent que finalement, cette loi qu'on pensait universelle, unique autour de l'autorité, de la domination, eh ben c'est pas vrai. Et que pour survivre, au contraire, il faut être solidaire.
Il y a un besoin comme ça, à la fois du grand public, d'entendre ce genre de choses. Et la science a découvert tellement dans tous les domaines. Alors moi, la manière que j'ai de le représenter, c'est qu'on a des êtres vivants dans des milieux différents. Et en fait, il y a plusieurs stratégies. Qu'est-ce qu'on fait pour survivre le plus longtemps possible? Est-ce qu'on s'associe ou est-ce qu'on se sépare? Et les grandes forces qui séparent les êtres vivants, il y a la compétition, l'agression, l'égoïsme, tout ça. Et en fait, les forces qui rassemblent, tout ce principe des forces qui rassemblent, les mutualismes, la coopération, l'altruisme, etc. Finalement, où on en est, déjà dans le savoir, dans l'éventail de tous ces possibles, c'est ce qu'on a appelé avec Gauthier Chapelle la symbiodiversité.
Ouais.
Toutes les formes de s'associer, et il y en a des biofilms de bactéries qui s'associent pour survivre dans un milieu de moins en moins riche, aux complexités des rapports humains avec le sens de la justice, l'amitié, l'amour, le partage, la réputation, etc. Il y a tout l'éventail et c'est absolument fascinant.
Et ça fonctionne très bien aussi entre espèces différentes. C'est ça qui est étonnant, c'est que certaines espèces qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, en apparence, dans l'arbre du vivant, ont besoin de coopérer ensemble.
Exactement. Et c'est l'exemple le plus fou en ce moment qui explose, je dirais, au niveau des travaux scientifiques, ce sont les bactéries et les virus.
Oui.
Et on se rend compte avec les nouvelles méthodes de séquençage que, en fait, on n'y connaissait rien aux bactéries. Il y a vraiment tout ce qu'il est possible de faire au niveau du vivant et des mécanismes du vivant a été fait par les bactéries. Et si un être vivant, un organisme veut développer une nouvelle fonction, il suffit de s'associer à des bactéries. Et nous, on a un microbiote qui est extrêmement complexe, on découvre plein de choses en ce moment. On ne peut pas vivre même sans microbiote, sans les bactéries. Et elles, certaines ne vivent plus sans nous, donc on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la symbiose, c'est une association obligatoire. Mais ce qui est fascinant avec les bactéries, c'est qu'elles sont là depuis 3,8 milliards d'années, elles ont tout inventé quasiment, mais qu'elles continuent, donc elles s'associent entre elles, mais qu'elles continuent à s'associer aux organismes les plus complexes. Et les derniers organismes, ou en tout cas les organismes les plus complexes qui apparaissent, sont associés aux bactéries. C'est ça qui est fou, c'est qu'on a des associations dans tous les sens et de toutes les couleurs.
Ben, ce que vous rappelez, c'est qu'au fond, les bactéries sont le pivot central de la vie, tout simplement parce qu'elles permettent la photosynthèse ou la digestion, par exemple, chez les organismes animaux, et que c'est absolument essentiel pour vivre là aussi.
Exactement, elles sont à l'origine de la respiration, donc l'endosymbiose, le fait qu'il y ait une association entre deux bactéries. il y a des milliards d'années, il y a 2 milliards d'années. Ça a permis l'invention de la respiration, donc ça a changé, ça a bouleversé l'atmosphère terrestre. C'est une invention majeure de la vie, une étape majeure. La photosynthèse, voilà, l'apparition des plantes, enfin c'est fou, la capacité pour le vivant de capter l'énergie solaire et la transformer sous forme de sucre, c'est complètement fou. Alors Stephen Jay Gould, le paléontologue, célèbre paléontologue, disait en fait l'arbre du vivant c'est pas du tout un buisson foisonnant, c'est un gros tronc de bactéries et une toute petite branche de métazoaires.
C'est ça, ouais, c'est une façon de voir les choses qui est assez exacte, hein. Est-ce que finalement on a mal compris la théorie de l'évolution, la sélection naturelle, Pablo Servigne, en parlant sans arrêt justement de la loi du plus fort, avec cette idée que c'est toujours le plus fort qui s'en sort dans l'évolution? Est-ce qu'il faut vraiment réapprendre au fond ces notions?
Oui, alors mal compris, je sais pas, mal interprété probablement, mais je crois qu'il y a quelque chose à réapprendre. On m'a enseigné, hein, j'ai fait beaucoup d'années de biologie et je le vois tous les jours, que la seule loi, c'est la compétition, c'est l'agressivité, etc. Donc il y a, si on prend un peu de recul, qu'on relie des contemporains de Darwin, je pense au prince, au géographe, au prince Pierre Kropotkin, qui était aussi un grand théoricien de l'anarchisme.
Et un exemple pour vous, apparemment.
Et pour moi, c'est un héros. Ouais. J'avoue que ce livre était vraiment un hommage, un clin d'œil, et plus un hommage à ce grand penseur. Et il a publié un livre génial qui s'appelle L'entraide, un facteur de l'évolution, en 1902, en fait, parce qu'il a beaucoup aimé la lecture de Darwin, et lui qui a été éduqué dans la zoologie plutôt russe, pas anglo-saxonne, et qui a été formé à l'humanisme des Lumières, en fait. Il est parti voir, en tant que géographe, dans des expéditions en Sibérie, où était cette sélection naturelle. Donc, au bout de quelques années, il revient avec ses équipes, et puis il fait ce livre, et il remarque, en fait, que les espèces qui survivent le mieux, et les individus qui survivent le mieux, sont ceux qui coopèrent le plus, ceux qui s'entraident. Ensemble, on est plus fort. Je reprends la devise de la Belgique, l'union fait la force. Et alors, ça pourrait paraître contradictoire avec Darwin, mais Darwin avait déjà remarqué ça. Et ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est de constater que Kropotkin a fait ses observations en Sibérie, un milieu de pénurie, un milieu hostile, pauvre. Et alors que Darwin a fait ses observations aux Galapagos, un milieu de luxuriance, d'exubérance, où l'abondance permet donc la reproduction plus facilement, et du coup là il y a plus d'individus et il y a plus de problèmes de limites, et la compétition et l'agression, c'est quelque chose qui est très utile pour définir des limites des territoires ou lors de la reproduction. Donc Darwin a probablement été plus témoin de comportement et de cas de compétition, il a peut-être plus mis l'accent sur ça que Kropotkin, qui montre bien que les milieux, les conditions du milieu, et en particulier les pénuries et les milieux hostiles, favorisent l'émergence de l'entraide et de la coopération. C'est un grand principe de l'évolution.
Pablo Servigne, on va se retrouver dans un instant. On aura aussi des exemples, des illustrations de ce thème de l'entraide et des messages nombreux pour vous sur franceinter.fr.
À la main, cherche son chemin, l'avez-vous vu? Une lampe à la main, cherche son chemin, l'avez-vous vu? L'avez-vous vu? On nous ment toujours, on nous ment toujours, on nous ment. Dans des manteaux blonds, dans des manteaux, manteaux de velours. Alors elle passe son temps à lire des BD, 3h du matin, la télé allumée. Et le voisin du dessus, le voisin du dessus, une lampe à la main qui cherche sous son chemin. L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? On nous ment sur ci, on nous ment sur ça. Alors t'envers tout envers ça, tout se renversa. Sur le nappe, une tâche, la vie c'est comme ça. On nous ment toujours, on nous ment toujours. On nous ment tout, on nous ment tout, on nous ment tout. mentait les gars, on nous mentait Christo, on nous mentait Sori, on nous ment sur tout ça. Une lampe à la main cherche son chemin. L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? Dans les rues de plaisir, des ourlets de dentelle et des petits rires. On nous ment. On nous ment sur ceci, on nous ment sur cela. Pas du tout ce qu'on lit, pas ce qu'on croit. On nous ment le matin, on nous ment le soir. Espoir. Dans l'immensité de la grande cité, j'avais choisi le mensonge. Dans l'immensité de la grande cité,
c'est le retour de Gérard Manset avec On nous ment, premier extrait du nouvel album À bord du Blossom, et c'est à paraître le 21 septembre.
La tête au carré.
En Ouganda, voici une femelle crocodile du Nil qui cherche à camoufler son nid avec une branche. Elle accepte de partager son territoire avec les oiseaux des berges en échange de leur vigilance. Les oiseaux, eux aussi, nichent ici et la présence de ce gros carnassier les rassure. Ensemble, ils alternent le babysitting des couvées. La mère crocodile part en chasse de quelques gibiers. Elle a enterré ses œufs dans le sable et laisse sa progéniture sous la bonne garde des oiseaux. Le varan du Nil saisit l'opportunité. Les oiseaux sonnent l'alerte. La femelle a fini par entendre. Une partie de la couvée sera finalement sauvée grâce aux oiseaux gendarmes.
Voilà Pablo Servigne, belle illustration finalement, hein. Une parmi tant d'autres de ces cas d'entraide justement dans le monde animal, c'est l'objet de ce livre, L'entraide, l'autre loi de la jungle au lien qui libère. Il suffit de se pencher finalement autour de nous, dans la nature, pour voir ces mécanismes à l'œuvre partout et en permanence.
Absolument, et aussi chez l'humain, il suffit de se pencher pour voir que nous les humains avons développé des extraordinaires capacités d'altruisme, d'empathie, de solidarité, mais elles sont devenues bizarrement assez invisibles. On les voit plus, on a mis les lunettes de la compétition, et puis on n'arrive plus à voir finalement ce qui est essentiel.
Alors vous décrivez finalement une situation aujourd'hui humaine, dans cette anthropocène qui nous montre vraiment des seuils critiques un petit peu partout, autour de la biodiversité en particulier. Il y a cette idée que nous serions finalement dans une période critique précisément, quasiment d'effondrement de nos civilisations ou pas?
Oui, alors ça c'est l'idée de notre précédent livre, Comment tout peut s'effondrer, paru il y a plus de 2 ans, et on faisait encore une fois un bilan interdisciplinaire, hein, c'est notre manière de nous exprimer, d'analyser notre monde. En voyant le tableau global, on a réuni quand même pas mal d'indices et de faisceaux qui montrent que la situation est critique et des seuils ont déjà été franchis, des seuils irréversibles qui mènent à des choses qu'on peut appeler catastrophe, effectivement. Mmh. Et ça a fait de nous alors des catastrophistes, pas parce que on souhaite le pire ou on dit que tout est foutu, mais parce que on voit lucidement ce qui arrive. Et donc, essayer de comprendre ça, c'était un peu notre démarche. Et en fait, en faisant des conférences, en rencontrant pas mal de gens dans beaucoup de milieux autour de ces catastrophes, eh bien, on s'est rendu compte qu'une question qui revenait souvent et qui faisait peur, c'est est-ce qu'on finalement va tous s'entretuer? S'il y a l'ordre social qui vacille, et s'il y a des grandes ruptures dans les systèmes alimentaires, à cause des catastrophes climatiques, etc. C'est un peu l'effet Nutella, pour reprendre ce qui s'est passé il y a quelques jours. Est-ce qu'on va tous vider les magasins en se donnant des coups de poing? Et donc ça, c'est une peur parce que ça fait écho à une mythologie, à une histoire qu'on se raconte. raconte depuis qu'on est petit dans nos sociétés, que l'être humain est profondément par nature égoïste, que en fait finalement par extension la nature est égoïste. Et ça, ce sont des histoires, c'est un mythe. Donc il ne s'agit pas de nier que ça existe dans la nature, mais il y a toute une autre face de l'être humain et de la nature qu'il faut explorer, qu'il faut comprendre. Et en fait, ce qu'il faut, c'est redevenir compétent en coopération, exactement comme nous sommes devenus extrêmement compétents en compétition dans nos sociétés.
Donc il suffit de chausser d'autres lunettes, hein, comme exactement. Vous le préconisez, pour nous permettre de voir le monde autrement. Ce message d'Aurélien qui nous dit finalement, votre thème ressemble à un livre de Jean-Marie Pelt qui s'appelait « De l'univers à l'être », qui dit que la loi de la jungle, dans le sens qu'on lui donne, n'existe pas, qu'il n'y a dans la jungle comme dans tout l'univers aucune compétition, mais surtout de la collaboration.
Oui.
Vous citez Jean-Marie Pelt,
d'ailleurs. Oui, il avait écrit aussi « La raison du plus faible » et « La solidarité chez les plantes et les animaux ». Et on se réfère aussi beaucoup à Mathieu Ricard et à Jacques Lecomte, hein, la bonté humaine. C'est vraiment dans cette filiation intellectuelle, mais qui remonte à Darwin, mais avant aussi. Hein, dès l'Antiquité, des penseurs ont observé et théorisé ça.
Eh bien, écoutons la voix de Mathieu Ricard, par exemple, nous illustrer en quelques mots ce que vous nous disiez il y a un instant, Pablo Servigne.
Si vous regardez les actes de notre existence, ils sont beaucoup plus tissés de sollicitude, de bienveillance, d'entraide. C'est tellement presque naturel que du coup, ça nous échappe un petit peu. Est-ce que vraiment l'animosité, l'agressivité, la violence prédomine? Et non, la réponse est non. En fait, les gens se comportent beaucoup plus de façon bienveillante, même dans les situations graves, comme dans les catastrophes naturelles. On parle toujours de panique, de pillage, de viol, etc. Quand on étudie vraiment ce qui s'est passé, c'est pas ça. Durant l'ouragan de Katrina, par exemple, on s'est aperçu que les gens étaient très calmes, qu'ils s'étaient organisés, qu'ils s'étaient entraidés, qu'il n'y avait pas eu un seul meurtre, qu'il n'y avait pas eu un seul viol. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de noyau dur égoïste. Ça n'a pas été attesté. Tout le monde, le contraire. C'est des préjugés, hein, de dire, il y a des évolutionnistes qui l'ont dit, gratter à la surface d'un altruiste, et c'est l'égoïste qui va saigner, c'est-à-dire ils se sont ingéniés par tous les moyens possibles pour essayer de vous montrer qu'il y avait des motivations égoïstes dans des actes qui semblent extrêmement altruistes.
Voilà, il faut entendre ces voix-là, Pablo Servigne, parce que ça nous donne aussi un autre regard, hein, sur les choses.
Absolument, oui, ça fait du bien, et surtout que la synthèse de Mathieu Ricard est assez impressionnante au niveau scientifique, justement, un tour d'horizon interdisciplinaire, et c'est intéressant qu'il parle des catastrophes, hein. Jacques Lecomte, le psychologue, avait vraiment mis l'accent là-dessus. Et en fait, on a été voir plus loin, c'est-à-dire que ça, c'est en situation de catastrophe, il y a effectivement d'altruisme
et de l'intelligence collective.
Exactement, hein. Et l'auto-organisation qui naît, et du calme. Mais on est allé voir des chercheurs qui ont testé des gens normaux en conditions normales et les ont mis un petit peu dans des conditions de stress. Ils ont fait des jeux coopératifs et leur ont demandé, allez maintenant répondez plus vite. Ouais. Et les gens qui ont répondu plus vite, qui étaient plus stressés ou plus en mode intuitif, ont été plus coopératifs. Et ce qui est fou, c'est que les chercheurs après leur ont dit, mais ralentissez, réfléchissez, prenez le temps de réfléchir. Et en fait, ils ont été plus égoïstes.
C'est quand donc même ça veut dire qu'il y aurait une espèce d'instinct de l'altruisme qui interviendrait en premier ou pas ?
C'est une hypothèse, mais nous, on n'a pas utilisé le mot d'instinct. On est vraiment parti sur ces couches qu'on peut plus séparer entre l'inné et l'acquis, la culture et la nature. Aujourd'hui, c'est un débat qui a 30-40 ans, qui n'est plus d'actualité, grâce entre autres aux découvertes fascinantes de l'épigénétique. Donc nous, les humains, avons ces capacités spontanées. Alors on parle de spontané, ça explique pas grand-chose encore, mais on va plus loin, le fait qu'il y a un système cognitif spontané, le système 1, on reprend les travaux de Daniel Kahneman, le prix Nobel d'économie, et puis un système qui commence à se méfier, qui réfléchit, le système 2, mais qui est très fatigant. Et en fait, quand on a l'habitude de réagir spontanément, on utilise le système 1 automatique, qui est très tourné vers l'entraide chez nous et la coopération. Pourquoi ? En fait, parce que depuis tout petit, depuis notre naissance, nous sommes pris dans des relations très très puissantes d'entraide, de coopération avec la maman, le papa, la famille, le clan, la grand-mère, etc. Et en fait, c'est une hypothèse d'une chercheuse qui s'appelle Sarah Blaffer-Hardy qui a posé cette hypothèse que en fait, le bébé est tellement vulnérable quand il sort, il n'est pas encore terminé, si je puis dire. Il fait son évolution cognitive après la sortie, après la naissance. Et c'est cette vulnérabilité qui a obligé finalement l'ultra-socialité, qui a mis en place les conditions culturel, mais aussi biologique, hein, ouais. De protection et donc d'ultra-socialité. Et nous sommes devenus une espèce ultra-sociale, ce qui a fait, et c'est ça qui est paradoxal et beau, c'est que c'est notre vulnérabilité qui a fait notre puissance finalement.
Jacques nous dit sur franceinter.fr, la petite paysannerie qui a vécu jusqu'à la guerre, jusqu'à après-guerre, une forme de solidarité par nécessité économique, pratiquait l'entraide pour les battages à l'ancienne, chaque fermier venant aider ses voisins et créant ainsi un fort lien social qui a complètement disparu en 10 ans avec l'arrivée de l'agriculture industrielle. Que de souvenirs, nous dit Jacques, un peu nostalgique visiblement. Hein.
Oui, mais je le comprends. Et c'est marrant parce qu'il y a un parallèle à faire avec dans le monde vivant, comme je disais tout à l'heure, c'est en milieu hostile, en milieu difficile, que peut émerger l'entraide. Et on remarque en milieu d'abondance, c'est paradoxal, c'est vraiment bizarre, hein, c'est plutôt la compétition qui émerge. En fait, quand on réfléchit, c'est pas si bizarre que ça, parce que quand on est riche et on a de quoi manger, on peut se permettre de dire à son voisin « j'ai pas besoin de toi ». Et en fait, les énergies fossiles aujourd'hui dans notre société, l'abondance énergétique, l'abondance dans laquelle on se trouve, fait qu'on on peut se permettre le luxe de l'indépendance pour le coup, et de se dire « j'ai pas besoin des autres ». Et finalement, on a créé une société, une idéologie de l'individualisme. C'est un luxe de riche finalement, l'individualisme. Et dans les sociétés agraires de l'époque, il fallait travailler ensemble, sinon on s'en sortait pas, c'était une obligation.
Pablo Servigne avec l'entraide, l'autre loi de la jungle, c'est avec Gauthier Chapelle, vous restez avec nous. Dans un instant, on se retrouve pour la dernière partie et d'autres messages sur franceinter.fr.
City on the wall, rock, 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 rock,
C'était NTM, Paris sous les bombes, titre de 1995.
La tête au carré. Sur France Inter.
Les champignons sont bien plus qu'un petit auxiliaire des arbres.
Ils leiten zum Beispiel gegen Bezahlung Informationen weiter.
Ils transmettent de l'information, mais contre rétribution.
Ja, also die bekommen dafür Zucker.
En échange, ils reçoivent du sucre.
Und leiten zum Beispiel Warnungen über Insektenbefall
an. Et ils peuvent transmettre, par exemple, des alertes sur l'arrivée d'insectes ravageurs.
Ich glaube, wir haben in der Schule alle Evolution falsch beigebracht bekommen.
Je crois qu'à l'école, on nous a appris l'évolution d'une manière erronée.
Dass nur der Stärkste überlebt.
Que ce n'est que le plus fort qui survit.
Und das sehen wir aktuell auch ein bisschen in der Politik.
Et c'est ce qu'on voit actuellement. En politique.
Und ein Baum weiß aber instinktiv, er ist ein einziger Baum ist kein Wald.
Mais un arbre le sait de façon instinctive, un arbre tout seul, c'est pas une forêt.
Er braucht die anderen, um zu überleben, und deswegen unterstützt er auch alle anderen.
Il a besoin des autres pour survivre, et donc il aide aussi les autres.
Voilà, c'était la voix du biologiste Peter Volleben avec La vie secrète des arbres. Il était venu, Pablo Servi, nous en parler en mars dernier à ce même micro. Alors ça, c'est encore un exemple fascinant hein,
ouais.
Entre un arbre, des microbes et qui ont besoin absolument de coopérer ensemble.
Qui coopèrent de manière extraordinaire. Les mycorhizes, c'est vraiment un wood wide web extraordinairement complexe et qui fait coopérer des arbres d'une espèce. Au sein d'une espèce, mais entre espèces. Il y a des expériences sur les bouleaux qui peuvent transmettre des sucres à des conifères, à des sapins. Et ça pose la question de... Ça nous montre, ça renverse notre imaginaire, ça raconte d'autres histoires, je trouve. C'est vraiment fascinant. Ça crée des déclics et des fissures dans notre imaginaire. Et en fait, c'est juste se rendre compte que les arbres ont inventé, il y a des millions d'années, les allocations familiales, la sécurité sociale, bien avant nous. C'est fou.
C'est de la facilitation, hein, finalement, aussi. On peut le voir comme ça. Hein.
Chez les plantes, on parle de facilitation pour les relations mutuellement bénéfiques. C'est une très belle expérience d'un écologue qui s'appelle Ragan Callaway aux États-Unis dans les années 90. Il s'est rendu compte qu'il y avait une cohabitation entre pins et sapins dans une vallée dans les Rocheuses aux États-Unis. Et lorsqu'on enlevait un sapin, le pin poussait mieux. Donc apparemment, il y avait compétition.
Mmh.
Mais ils sont allés plus loin. Ils sont allés voir en haut de la montagne, très très proche, hein, en haut de la montagne où les conditions sont plus difficiles. Il fait plus froid, il y a moins de minéraux, etc. Et là, les arbres vivent effectivement ensemble. Mais quand on enlève un pin, le sapin pousse moins bien. Et donc, il y aurait coopération ou ce qu'ils ont appelé facilitation. Alors, c'était fou. Et ils sont allés voir partout dans le monde. Et à chaque fois, ça revient, ce principe que, en milieu difficile, l'entraide permet de survivre. Et c'est finalement ce qu'on en revient à Kropotkin et à Darwin, qui avait cette intuition.
Il y a un message de Louis, un de nos auditeurs, qui nous dit « Attention, Darwin a parlé du plus apte et non du plus fort. Les stratégies d'entraide ont pu évoluer de la même manière que les stratégies agressives selon les espèces, si elles ont permis une meilleure aptitude individuelle, survie, reproduction dans un milieu donné. »
Absolument, oui, la survie du plus apte et la survie de la loi du plus fort, en fait, c'est
adapté,
une interprétation de Darwin. Ce sont des philosophes comme Herbert Spencer, etc., qui ont interpréter Darwin pour en faire une idéologie à l'époque de l'Angleterre victorienne, du capitalisme naissant, de l'industrialisme, etc. Et ça en est devenu une idéologie, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Darwin avait plutôt développé dans son livre de 1871, La filiation de l'homme, cette idée aussi que... Et il se posait la question, mais si les individus les plus aptes survivent, pourquoi est-ce qu'une fourmi qui est stérile, qui ne se reproduit pas, une ouvrière fourmi, existe? Pourquoi elle a été sélectionnée par l'évolution? Et c'était un mystère si on voyait toute l'évolution comme une lutte de tous les individus entre eux.
Mmh.
Et finalement, Darwin a eu cette intuition que, en fait, c'est peut-être les groupes, la colonie de fourmis qui est sélectionnée. Il y a un niveau supérieur de sélection, un niveau de sélection. Et ça a été confirmé dans les années 50, quand il y a eu la théorie synthétique de l'évolution, Mayer, Simpson, etc. Et finalement, ça a été oublié dans les années 70, qui a vu l'essor du tout génétique. La génétique a pris le pouvoir en biologie et on s'est mis à tout expliquer avec la génétique. Et alors la grande théorie pour expliquer ce paradoxe de l'altruisme, c'était qu'en fait c'était un égoïsme caché et que tous les gènes en fait cherchaient leur propre reproduction.
Le gène égoïste,
c'est ça. Richard Dawkins, absolument. 1974-75,
voilà,
c'est ça. C'était ça. La naissance de la sociobiologie avec Edward Wilson et le fait que c'est l'altruisme pourrait émerger grâce à la proximité génétique. J'aide mon frère parce qu'il a la moitié du patrimoine commun, génétique, en commun avec moi. Donc j'ai une chance de propager mes gènes si j'aide mon frère. Mmh. Ça, c'est la grande théorie. Alors, on en est revenu. Non seulement parce que il y a l'idée que les gènes se sont associés. C'est fou que j'ai jamais vu ça dans ces théories. Les gènes, ils sont égoïstes, mais ils se sont quand même associés pour faire des organismes. Et les cellules se sont associées pour faire des organismes. Les organismes s'associent pour faire des sociétés, etc. Et en fait, récemment, il y a eu beaucoup d'expériences sur ce que Darwin appelait la sélection de groupe. Enfin, ce qu'on a appelé la sélection de groupe, le fait que les groupes sont sélectionnés. Et le même Wilson, qui a créé la sociobiologie dans les années 70, a retourné sa veste récemment, dans les années 2000. Il est revenu et il tire à boulet rouge sur la théorie qu'il avait lui-même faite du tout génétique.
Pour considérer l'environnement aussi. Hein.
Exactement, pour considérer l'environnement, qui serait le facteur principal d'association en groupe des êtres vivants pour faire des groupes. Et finalement, que la sélection naturelle agirait aussi bien au niveau individuel, elle sélectionne les plus aptes, parfois les plus compétitifs, et les individus les plus compétitifs gagnent au sein d'un groupe, mais paradoxalement, les groupes les plus coopératifs gagnent. Et donc, c'est deux forces contradictoires de l'évolution qui font qu'aujourd'hui, on a, suivant le milieu, tout l'éventail du vivant, ouais, des plus coopératifs aux plus compétitifs.
Pablo Servigne, ce qui est étonnant, c'est que finalement, dans ce courant de la biologie là, que vous venez de décrire dans les années 70, avec ce fameux gène égoïste et cette idée hein, finalement qu'on avait aussi du vivant, dans le même temps, l'éthologie aussi apparaissait. Vous qui avez étudié les fourmis au début de vos travaux, c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à observer les sociétés humaines autrement par le prisme de ces colonies d'insectes. Hein. C'est comme ça que c'est né.
Oui, il n'y a pas que les insectes. Il y a eu beaucoup de travaux sur les primates, enfin sur beaucoup d'animaux. Mais alors il y a pas mal de philosophes en ce moment. Je pense à Franz de Waal qui est éthologue, mais aussi il fait des bouquins qui touchent à la philosophie. Je pense à Vinciane Després en Belgique à l'université de Liège qui étudie les éthologues et qui se rendent compte qu'on pose les questions finalement. L'éthologue chausse les lunettes de sa société, et quand sa société pense individualisme, il pose des questions individualistes aux animaux. Et aujourd'hui, on ouvre un petit peu les portes, on change de lunettes, et donc on pose des questions différentes aux animaux, aux plantes, et donc on découvre des choses différentes.
Cette question, ce sera la dernière de Ludovic. Vous avez parlé du monde végétal, animal et humain, mais l'entraide entre êtres humains ne dépend-elle pas aussi du régime politique dans lequel vit une population, mais également de son éducation?
Bien sûr, c'est sûr, et nous avons, comme je disais tout à l'heure, une propension à l'ultra-socialité qui vient de notre patrimoine génétique, de nos ancêtres, des relations qu'ont eu nos ancêtres, aussi de la culture de nos ancêtres, et on hérite d'une culture et d'un patrimoine génétique, c'est lié, c'est difficile de voir aussi, de distinguer les deux, mais on hérite de tout ça, et comme disait le philosophe Hume, nous naissons égoïstes et altruistes, et la société nous rend égoïstes et altruistes, et à nous de bouger le curseur et de construire la société qu'on veut, on a les possibilités de faire beaucoup de choses.
Ce lien et ce mot d'entraide, c'est celui que vous avez choisi. Pourquoi, au fond, Pablo Servigne?
Alors, c'était surtout un clin d'œil à Kropotkin. Ouais. On voulait actualiser et voir ce que la science a découvert depuis un siècle, depuis le fameux livre de Kropotkin. Mais entraide, ça nous paraissait... c'est un joli mot parce que il est à la fois oublié des sciences, on l'utilise plus en science, et à la fois, il est très chaleureux pour nous. Mmh. Et en fait, c'est la traduction de Kropotkin, Élisée Reclus, le grand géographe français, qui a inventé le mot et qui l'a offert à la langue française.
Eh bien, vous le remettez en lumière donc dans cet ouvrage qui paraît aux éditions Les liens qui libèrent, l'entraide, l'autre loi de la jungle avec Gauthier Chapelle. Merci beaucoup.
Merci
d'être venu cet après-midi nous voir. C'est terminé pour notre Tête au Carré. Merci à Thierry Dupin qui assurait la programmation musicale de l'émission. Dans un instant, vous retrouverez Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Et demain, vendredi, ce sera le club des Têtes au Carré. Bon après-midi à tous et à demain.